Genre un mot. Le super savant. Il y avait une fois un petit garçon de 7 ans, si chétif, si pitoyable, que ses parents, laboureurs, fils de laboureurs, se dirent, après l'avoir examiné sur toutes ses faces, qu'allons-nous faire de ce malheureux? Il a la tête plus grosse que son derrière. Mauvais signe, oh, il ne pourra jamais labourer un sillon. Ayant réfléchi des jours et des jours, ils conclurent. Bah, il est bon à rien. Envoyons-le aux écoles pour en faire un savant. Et peut-être arrivera-t-il, en maniant la plume, le compas et l'équerre, à gagner autant d'argent que nous, en maniant la charrue, la bêche et le charreteau. Ils le mirent donc aux écoles, ce pauvre petit. Et dans ces écoles, il remporta tous les prix et il décrocha tous les diplômes. Il devint en effet un savant, un grand savant, si bien qu'à 20 ans, il se signala déjà par toutes sortes d'inventions et de découvertes dont l'historien soussigné doit informer les foules. Procédons par ordre. En ce temps-là, les autos ne faisaient guère que de 500 km à l'heure. Et lui, notre savant, fabriqua un moteur qui permit de faire du 1000 à l'heure. Et pour cela, certes, il fut loué, fêté, couronné par les deux hémisphères. On lui donna un tas de décorations qui recouvrit sa poitrine. Et la preuve qu'il méritait bien ces hommages, c'est que dans la première guerre qui éclata, les armées qui avaient pris les précautions d'adopter son moteur pour leurs voitures de transport écrasèrent les armées ennemies et leur tuèrent en n'a rien de temps, 3 millions d'hommes. Dix ans plus tard, le savant imagina un nouveau moteur qui permit de faire du 2000 à l'heure, sur terre, dans les airs et même sous les océans. Pour cette découverte, il reçut tant de décorations qu'il en resta pavoisé de la glotte jusqu'au nombril. Et la preuve que la découverte était merveilleuse, c'est que dans la guerre qui suivit, le peuple qui avait adopté deux nouveaux moteurs à ses tanks, à ses avions et à ses sous-marins, tu as 4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants au peuple rival. Dix ans plus tard, le savant lança un troisième moteur qui permettait d'entraîner un objet quelconque à la vitesse de 50 000 km à l'heure. Et cette invention lui ouvrit tous les instituts, et lui valut tant de croix qu'il en accrocha jusque sur ses pantoufles. Et la preuve que cette nouvelle invention était d'une importance formidable pour l'humanité, c'est que dans la guerre qui s'ensuivit, un peuple en extermina deux autres avant qu'ils eussent eu le temps de crier ouf. Et à 60 ans, le savant paracheva un moteur d'une puissance telle qu'il permit enfin aux hommes de s'en aller dans la lune. Et il était temps qu'on y abordât pour rechercher des métaux fabuleux et des frissons inédits, car toutes les choses de la terre étaient bien démodées. Les midinettes ne voulaient plus de colliers de perles, et les blanchisseuses dédaignaient les diadèmes de diamants. On ne cherchait que des produits de la lune, des pierres de lune, des tableaux peints dans la lune, des livres écrits dans la lune. Pour ce dernier moteur qui allait transporter les hommes dans l'empire de Séléné, le savant reçut un si grand nombre de plaques et de crachats qu'il fallut les lui accrocher sur le dos, entre la nuque et les reins. Et la preuve que cette nouvelle trouvaille était sublime, c'est que 12 millions d'humains s'embarquèrent pour la Lune à la recherche du fantastique trésor, et qu'il n'en revint pas un seul. Les Sélénites les avaient tous mangés. Et à 80 ans, le supermoteur que le savant inventa fut si prodigieux qu'il devait permettre, annonça-t-on, de monter jusqu'à la planète Mars, où certainement on trouverait des trésors inouïs valant des milliards et des milliards de dollars. Pour le coup, si je ne suis pas immortel, se dit le savant qui avait déjà fait tuer 194 millions de civilisés des deux sexes. Et il attendit les cantates des poètes. Mais cette fois, cet homme, qui n'était jamais sorti de son laboratoire de la rue Lepic, se fit une réflexion. Et si j'allais moi-même à la planète Mars? Si j'imaginais cette excursion aller-retour pour les vacances de Pâques, il serait peut-être temps de m'amuser un peu. Il partit sur un appareil de son invention qui devait le porter de la rue Lepic au canot de Mars en moins de temps qu'il ne fallait en temps barbare pour aller de la gare des Invalides à Issy-les-Moulineaux. Et sans doute s'approchait-il déjà de Mars, ou même du Soleil, car les terres commençaient à sentir le roussi. Lorsque, dans le vide, il entendit une voix de tonnerre qui criait « Stop !» et il entrevit, en face de lui, un être énorme, un géant plus haut que la plus haute montagne, avec 1 million de bras, 1 million de jambes, 1 million d'yeux et 2 millions de bouches, qui avait un terrible appétit. « Bonjour, savant, lui dit cet être incommensurable, tu ne me remets pas, mais je suis ton Dieu, le progrès. Approche donc, n'aie pas peur. Je te félicite, mon garçon. Tu as fait des choses admirables. Continue. Grâce à toi et à quelques-uns de tes collègues qui travaillent dans la balistique, les explosifs, les gaz, les microbes et autres petits jeux, la fin du monde, qui est mon but, ne paraît pas très éloignée. Courage donc. Retourne à ton laboratoire. Je suivrai tes nouvelles démarches, tes nouvelles découvertes, avec toute l'attention qu'elles méritent. Mais attends, il te manque une décoration, l'ordre de la destruction totale. La voici. Mais où vais-je l'accrocher? Ah, je vois une place libre Là, comme cela, ça y est. Au revoir, cher maître. De tout cela, le savant fut si troublé qu'il fit machine arrière et s'en retourna incontinent sur notre planète obscure. Et rentré dans son laboratoire, il brisa tous ses appareils, instruments, cornues. Elle ne voulut plus rien inventer, et l'on apprit bientôt qu'il allait consacrer sa fortune à la formation d'une académie bizarre, l'Académie des Ignorants. 40 membres choisis parmi les crétins les plus crétinisants, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Oh, n'était-ce pas touchant? Il est fou, se dit-on. Il doit avoir attrapé là-bas un coup de soleil ou de lune. Alors on se détourna de lui, on enleva ses décorations et on les accrocha au sommet des mâts de cocagne pour exciter les batteleurs. Les jours de jouissance populaire. Et en effet, ce pauvre homme avait bien perdu la tête, car il ne fut plus que de se tourner les pouces et de regarder son nombril. Cependant, un jour, se sentant tout de même au bout de sa carrière scientifique, il dit à un dernier élève, apportez-moi une poignée de terre et un grain de froment. Que voulait-il faire? Quelque chose de surhumain, sans doute, le chant du cygne. On lui apporta ce qu'il avait demandé. Il enfonça le grain de froment dans la poignée de terre et attendit. Et il eut la gloire, au bout d'une semaine, de voir surgir un brin vert, et au bout d'un mois, deux feuilles étroites, et au bout d'un trimestre, un épi composé de 40 grains de froment. Alors, il eut un sourire de triomphe et murmura, j'aurais fait tout de même quelque chose d'utile. Et il rendit l'âme. Oh, il n'y eut personne à ses obsèques. On remarqua pourtant seulement un petit oiseau qui voletait derrière le corbillard en pépillant, comme pour dire merci, merci. L'historien suppose que cet oiseau avait dû manger les 40 grains de froment.